a des gens de Liège, hein, j'oubliais, des gens de Liège, mon grand ami qui a fait la fac avec moi, des gens ici de Tournai, c'est loin, qui sont des collègues à Yann. On a des gens de Bruxelles, hein, de Bruxelles et de plus loin encore, de Bruxelles aussi, il y a d'autres encore. Toi, tu viens d'où encore? L'Anne, et de l'Anne, voilà, hein, pas l'Anne, l'Anne. Alors, donc, aujourd'hui, évidemment, le thème, c'est, comme je l'ai dit, enfin, comme on l'a dit, le titre, je le répète, le titre, c'est « Le bonheur, la quête de toute une vie ». Le bonheur, la quête de toute une vie. Alors, d'où vient cette idée? Eh bien, ça vient d'un certain psychologue qui s'appelle Bruno Fortin. Bon, en googlant, j'ai vu quelques sources intéressantes et je l'ai lu. Donc un psychologue qui n'est pas nécessairement chrétien, mais qui est très intéressant, très pertinent pour certaines choses. Allez voir. Et voilà ce qu'il dit. Tu l'as... C'est les gens heureux si tu l'as pas fait là. Alors je vous le dis. Donc on va revenir sur Bruno Fortin, hein, et ce qu'il dit. Mais regardez ce qu'il dit. Il dit les gens heureux se caractérisent par leur estime d'eux-mêmes, ouais, comment ils se voient eux-mêmes, leur croyance au contrôle sur leur vie. Donc il y a une certaine conscience, connaissance des choses, comment les choses avancent dans leur vie. Leur optimisme, optimisme. Leur foi religieuse, intéressant, hein, qu'il cite ça lui-même. Et leur engagement. Hein, cette fidélité, ces gens qui sont, comme on dit, fiables, ils s'engagent, ils font des projets. Hein, et il va dire, même dans son exposé, des projets qui sont même cosmiques. Ça peut être... comme ce projet Miché, moins réduire la pauvreté de la moitié, je crois que c'est la moitié, pour 2015. Hein, c'est des projets déments, quoi. Mais ça peut être cosmique, à l'échelle vraiment mondiale. Et il continue, il dit, les individus appartenant à des groupes désavantagés maintiennent leur estime d'eux-mêmes en valorisant les choses dans lesquelles ils excellent. Hein, trouver son don, se mettre au service ce don que l'on a. En faisant des comparaisons à l'intérieur de leur propre groupe, ce que nous on fait ici à Pléroma, et en attribuant leurs problèmes à des causes externes ou aux préjugés. Ça veut dire, je le répète, donc ça veut dire qu'ils disent qu'il y a plein de choses autour de nous, oui, des injustices, des souffrances, des peines. Bien sûr, ils disent que à des causes externes. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une souffrance interne, des choix que l'on fait, peut-être, hein, des... C'est pas simplement les apparences, c'est pas simplement tout ce qu'on nous vend comme produit qui nous rend heureux, va-t-il dire. Est-ce que le matériel nous suffit, hein? Elle est d'accord, d'ailleurs. À mon avis, elle va faire aussi comme papa plus tard. Hein? Maman, hein? Bien. Alors, le bonheur, est-il lié aux circonstances de ma vie? Est-il lié aux circonstances de votre vie? Parce qu'on va voir un petit peu chacun, qu'est-ce qu'il aime. Est-ce qu'on peut distribuer les ballons aussi, ce serait vraiment gentil, et les marqueurs, si quelqu'un, voilà, merci. Alors, donc j'ai choisi le bonheur, la quête de toute une vie, pour quatre raisons. Un, le bonheur, c'est pour nous révéler ce mot plénitude qu'on a choisi, hein, pléroma, plénitude, hein, qui n'est pas un mot familier pour vous peut-être, et qui ne vous dit pas grand-chose. Mais en tout cas, ce que dit la Bible, c'est que Dieu était pleinement en Jésus-Christ. Waouh! En Dieu était pleinement... Non, en Jésus-Christ était pleinement Dieu. Et elle le dit pas qu'une seule fois. On va voir aussi que le bonheur, c'est une quête. C'est pas quelque chose d'acquis. Tiens, ça y est, vous êtes d'accord avec moi? J'ai eu cette image. Vous avez déjà essayé d'attraper un poisson vivant? Qui a déjà essayé? Hein, quand on s'amène... quand on est dans... Toi, t'es avec les corails, hein? On essaie de les attraper, qu'est-ce qui se passe, hein? Avec un hameçon, c'est possible, d'accord, oui, ça oui. Hein? Mais quand vous essayez de les attraper, au moment où vous l'avez, c'est parti, quoi. J'ai eu cette image que le bonheur, c'est un petit peu ça. Au moment où on l'a, yes, ça y est, il nous échappe. On a déjà un autre moment difficile, ou parfois même, je sais pas si vous êtes comme moi, on éprouve un moment de bonheur et on a peur. Vous avez déjà eu ça? Dites-moi que vous êtes comme moi. On est là, oh, waouh! On est dedans, et on se dit, jusqu'à quand ça va durer, encore une heure, allez, encore un jour. Et puis hop, il y a quelque chose qui arrive. Et hop, ça peut être l'heure d'après, ça peut être un événement, un coup de téléphone, une mauvaise nouvelle, etc. Hein? C'est ça, c'est comme ça qu'on va définir le bonheur. Et puis ensuite, on a une quête de toute une vie. Toute une vie. On est en recherche, on est en renouvellement, on est en développement, constamment. C'est ça que la Bible nous dit, elle nous dit, renouvelez-vous. Chaque fois que vous en avez l'occasion, revenez sur ce que vous... Allez, être un papa, par exemple, être une maman, dites-moi à ceux qui ont l'habitude d'être papa et maman, Charlotte, Manu, toi, depuis 15, 20 ans, dites-moi, est-ce que vous avez dû renouveler votre façon d'être parent, souvent? Vous dites...
Ah oui.
Avec des travail comme ça avec mon fils, et comme ça, de toute façon, je ne changerai pas, et puis on se rend compte ben, que oui, hein, on doit se renouveler, on doit repenser peut-être. Et c'est à ça que ça plaît, Romain. On se dit ensemble, tiens, comment toi, t'es papa, ah, tu fais ça? Ah ouais, intéressant. Et justement, j'ai lu ça dans la Bible ici, comme ça, tu peux essayer. Ah ouais, ça marche. Donc, c'est une recherche, c'est une quête de toute une vie. D'accord? Bonjour, Gilles.
Coucou, Gilles.
On parle du bonheur, Gilles. Alors, et c'est une quête. Je t'en prie. C'est une quête, mais c'est aussi une quête, comme nous dit la Bible, c'est une quête de toute une vie. Toute une vie. Oui. C'est pas de temps en temps, quand ça me plaît, il arrive que... non, c'est en tout temps, je me pose des questions. Tiens, est-ce que je suis heureux? Oui. Est-ce que vous vous posez cette question-là? Tiens, aujourd'hui, est-ce que je suis heureux? Tiens, pourquoi ça ne va pas aujourd'hui? C'est souvent ça qu'on se dit. Hein. Quand on est bien heureux, qu'on apprécie des choses comme ça, on oublie un petit peu, on est un peu ingrat. Mais quand ça ne va pas, quand il y a un jour du malheur, etc., on se dit, waouh, mais c'était bien avant. Mais... Voilà. Alors, Ésaïe 66 nous donne cette phrase que j'ai trouvée, qui est la seule dans la Bible, où on parle de plénitude et de bonheur en même temps. Écoutez bien ce qu'il dit. Afin que vous soyez nourris, et rassasié du lait de ses consolations, de qui parle de Dieu, évidemment, hein, afin que vous savouriez avec bonheur la plénitude. Donc le bonheur, avec bonheur, on va vers la plénitude. Oui. Donc la plénitude, c'est être plein de quelque chose. Alors, de quoi est-ce qu'on est plein, appelé Roma? Ou de quoi est-ce qu'on veut être plein? Pardon? Un com. C'est Roma.com, c'est lui qui l'a dit, ton beau-frère. Alors, donc, on a... j'en étais où maintenant? De quoi est-ce qu'on est plein? Oui, hein, on va le voir ensemble, bien sûr qu'on est plein de la parole de Dieu, on est plein de plein de choses, d'amour, mais on est plein aussi de pas de bonnes choses, si on est comme un être humain normal, hein, on a nos manquements, nos faiblesses, etc. Qu'est-ce qui fait qu'on est différent? Est-ce qu'on est meilleur? Bien sûr que non. Alors à quoi ça sert de croire en Dieu? Allez vous me dire, hein, si c'est pas pour être meilleur. Non, c'est que nous on a accepté qu'il y avait quelqu'un qui était meilleur que tout le monde. De qui on apprend, en qui était la plénitude. Et il dit savourer avec bonheur la plénitude de sa gloire. Alors il y a un autre psaume, le psaume 2.12 que j'aime beaucoup. Écoutez bien, c'est le psaume 2.12. Ouais. Alors ça c'est un mot un peu délicat, mais disons que c'est embrasser. Hein, d'accord? Kiss. Okay? Baiser le Fils, embrasser le Fils, de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Voilà ce que la Bible ose nous dire. Et je vous assure que quand je tape heureux, bonheur ou quoi, il y a plein de mots qui sortent dans la Bible. C'est vraiment un thème récurrent. Alors ici, baiser le Fils, ça veut dire quoi? Est-ce que nous avons déjà embrassé le Fils? Donc Jésus-Christ, bien sûr. Qui a embrassé le Fils ici? Personne. Il est mort, ressuscité, c'était il y a 2000 ans. Oui, c'est ce qu'on croit. Mais qu'est-ce que ça veut dire alors embrasser le Fils? Qu'est-ce que ça veut dire embrasser le Fils?
L'aimer.
Le connaître.
Accepter sa direction.
Et j'aimerais vous poser une question, alors, pour continuer. Savez-vous ce qui vous a amené ici? Dites-moi. Je parle des non-pléromiens, hein, de ceux qui ne sont pas encore pléromiens. Enfin, pléromien, c'est être chrétien à pléroma. Hein, c'est ça que ça veut dire. Mais voilà. On peut très bien être chrétien sans être pléromien. Voilà. Alors, dites-moi. Qu'est-ce qui vous a amené ici? Là, c'est les invités qui peuvent parler. Là. Vous avez droit... Pourquoi vous êtes venu ici, quoi? Vous êtes dit, allez, il n'y a rien à faire, c'est pas si beau.
L'amitié et un bon repas.
L'amitié et un bon repas, très bien. Ah, ça, c'est aussi pléroma. Hein. Prendre soin. Aussi, la fête, merci beaucoup. C'est comment ton prénom,
Nicolas.
Nicolas, merci, Nicolas. Ah, c'est la fête aussi. Merci. Quoi d'autre? Qu'est-ce qui d'autre vous a fait? Vous qui êtes peut-être déjà aussi chrétien, hein, même chrétien. Ou ceux qui se posent des questions, etc. Qu'est-ce qui vous a fait envie de venir? Ce matin, vous vous dites, oh, j'ai envie d'aller là. Ruth ou Mathilde, pourquoi vous aviez envie de venir ce matin? Ou Sarah? Ou Gilles? Pourquoi tu avais envie de venir ce matin, Gilles? Toi qui nous as fait un si bon repas avec ta famille. Gilles? Non? Tu m'entends, Gilles? Pourquoi tu es venu ce matin, Gilles?
Pourquoi vous aimez venir ici?
Ah ben j'adore ça, ça bouge, ça
me plaît. Tu aimes bien venir? Et pourquoi, Gilles? Pourquoi tu aimes bien venir?
Je ne sais pas, parce que ça me plaît beaucoup maintenant. C'est Charlotte qui m'a appris tout ça, parce que j'étais catholique dans l'âme. Mm-hmm. J'ai été 10 fois à Lourdes.
Oui.
Maintenant, j'en veux plus.
D'accord.
Et mon mari n'en voulait plus non plus.
Voilà, bon, vous voyez, il y a... Alors, qui d'autre encore? Encore une personne qui vient ici à Pleroma, peut-être pour la première fois ou deuxième. Oui. Qu'est-ce que vous a donné envie de venir ici, Mathilde?
Faire de nouvelles rencontres.
Faire de nouvelles rencontres, oui, bien sûr. Voilà, je m'arrête là, on pourra encore en parler après. Hein. Donc, l'église Pleroma, je pense, elle est dispatchée, en fait, dans les vies de plein de gens, oui, et elle est invitatrice, accueillante. Elle veut être accueillante. Mais pourquoi? Et je vais vous donner une petite anecdote avant de faire des citations. J'ai une amie que je suis en train de suivre, pour l'instant une très grande amie, qui me connaît, je pense, presque aussi bien que mes parents, parce que ça fait 35-40 ans qu'on se connaît. Elle me disait, elle essaie de construire dans son couple, de renouveler son couple, et elle me disait, il y a quelque chose chez vous? Je ne sais pas ce que c'est. Elle dit, mais j'ai envie de savoir. Elle est très scientifique, etc. Et je lui dis, est-ce que tu penses que je suis un mari parfait? Non, tu n'as jamais dit ça. Est-ce que tu penses que je réussis, toi et ma femme? Non, justement, tu n'as plus. Au contraire, tu es le seul conseiller qui me parle de ses faiblesses. Et tu es le seul qui me parle toujours d'un autre, d'un meilleur conseiller. Toujours, elle me dit. Tu es toujours celui qui... Tu vois ta femme avec ses qualités, ses faiblesses, tu te vois toi avec ses qualités. Et pourtant, depuis tant d'années que vous êtes mariés, quand je rentre chez toi, je ressens quelque chose qui me donne envie de revenir. Elle dit, je sens une paix, et je la sens. C'est pas moi qui l'a fait, cette paix, parce que je ne suis pas le mari idéal du tout, loin de là, ni mon épouse, mais on est dans une réconciliation, dans un pardon, dans une présence. Alors regardez bien les citations. On va voir la définition du bonheur, bien sûr. C'est quoi le bonheur, mais aussi c'est quoi le malheur? Qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas heureux? Qu'est-ce qui pourrit votre vie? Qu'est-ce qui pourrit notre vie? Ça, c'est aussi à vous de me le dire. Alors, et de quoi est-ce que vous remplissez dans votre vie? On y va pour les citations? Tu peux en faire une à la fin? Oui. Super, waouh, ça c'est excellent. Alors, il ne faut pas pleurer pour ce qui n'est plus, mais être heureux pour ce qui a été. Pas mal, non? Hein? Vous êtes d'accord avec cette petite phrase?
Non.
Non? Dis-moi.
Donc, ça, parce qu'on ne peut pas commander de pleurer et commander d'être heureux. C'est un état.
C'est un état.
Mm-hmm. On ne peut pas dire, ah, je dois être heureux, non. Mais on ne l'est pas.
Mm-hmm. Oui, mais c'est parce qu'il y a eu un décès, je pense, là aussi. Mm-hmm. Parce que c'est lors d'un décès, les gens sont dans un accaparement.
C'est bien de le dire, mais...
Oui.
Pratiquement, c'est pas possible.
Ok, donc on est plutôt dans un désir de finalement souhaiter de célébrer ce qui a été, les choses qui ont amené à un bonheur plutôt que la personne n'est plus là et de se lamenter de son absence. Et le bonheur, c'est aussi, je parle de ça parce que Jésus-Christ n'est plus parmi nous. Oui, on peut célébrer ce passé aujourd'hui parce qu'il a pour toute l'œuvre qu'il a faite sur la terre pour nous. Hein? Et on pleure pas pour ce qu'il n'est plus parce qu'il n'est plus sur la terre, mais on se réjouit de ce qu'il est pour vous aujourd'hui. Alors, deuxième citation. Ce qui te manque, cherche-le dans ce que tu as. Hein? Alors, qui aime cette citation? Elle est un peu vide, hein? Ce qui te manque, cherche-le dans ce que tu as. Qu'est-ce que j'ai que je n'ai reçu, hein, nous dit la Bible. J'ai peu, ce qui te manque, cherche dans ce que tu as, mais si je ne l'ai pas, je ne peux pas, donc c'est un peu caduque.
Ça veut dire que c'est de l'ordre, tu dois ranger d'abord.
C'est un peu quoi?
Ça veut dire que c'est pas en ordre, quoi, et que tu dois d'abord ranger pour trouver.
Voilà, c'est ça.
Ou qu'on a tendance à aller voir ailleurs ce qu'il y a et jalouser un petit peu.
On jalouse, voilà, c'est ça. Voilà. Parce que ce qui te manque, cherche-le dans ce que tu as, Mais si tu ne l'as pas, c'est qu'il te manque. C'est pour ça que c'est un petit peu...
Ce sera toujours incomplet, mais c'est l'ensemble de... Ça s'appelle des aphorismes. C'est l'ensemble de ces petites phrases qui sont la sagesse, en fait.
C'est ça. Alors, une autre, on va aller un peu plus vite. Le contentement apporte le bonheur même dans la pauvreté. Le mécontentement apporte la pauvreté même dans la richesse. Je l'aimais bien, celle-là. Non ? On peut être riche et pauvre, on peut être pauvre et riche. Et mon épouse, quand je lui ai demandé ce matin, tiens, mais au fond, et toi, comment tu définirais le bonheur en un seul mot ? Il m'a dit le contentement. Hein, l'appréciation de ce que je suis ou j'ai maintenant, là. Oui, je ne peux pas avoir plus ou moins, c'est ce que j'ai, c'est ce que je reçois aujourd'hui. L'autre, change en toi ce que tu veux changer dans le monde. Gandhi. Pas mal, non ? De Gandhi. Si je veux que les choses changent, souvent, je dis, ah, je prie pour mon épouse pour qu'elle change. N'est-ce pas? Oui, très fortement, et elle ne change pas, c'est ça qui est étonnant. Tandis que si je prie pour changer moi, hein, pour regarder avec un autre regard l'autre, eh bien, il y a des choses qui se font. Hein. Même des personnes qui n'avaient pas nécessairement la foi disent des choses qui sont pertinentes. On continue? Oui, c'est ridicule ce que je viens de dire, mais évidemment. Le bonheur, c'est la somme de tous les malheurs qu'on n'a pas. Mais ce que je vais essayer quand même de dire, c'est qu'il y a un copyright de la Bible de toutes ces paroles. Même quand elles sont bonnes, Dieu, on n'a pas inventé la roue. Même les plus grands philosophes, même les plus grands Manitou, même Gandhi, même j'enlevais du Lai Lama, aussi. Et je me suis dit, en fait, c'est tout dans la Bible. Ah, voilà, le bonheur de grand Lama. Le bonheur, c'est la somme de tous les malheurs qu'on n'a pas. J'aime bien ça. Hein, c'est un peu la même chose. Donc c'est... Les malheurs qu'on n'a pas, ben, c'est ça mon bonheur, quoi. Hein? Si quelqu'un aurait dit mieux, dites-moi. Enfin, l'autre, le plus grand voyageur n'est pas celui qui a fait 10 fois le tour du monde, mais celui qui a fait une seule fois le tour de lui-même. Non ? Hein? C'est pas mal, ça ? Voilà. Vous connaissez la chanson ? Alors, donc, est-ce qu'on peut faire le tour de soi-même ? Dites-moi, je vais prendre plus de temps que vous, plus de volume. Mais qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est vraiment une découverte, hein, une progresse, apprendre à se connaître. Connais-toi toi-même, disait Cicéron. Hein, connais-toi toi-même. Et je pense que c'est un des derniers, non? L'homme le plus heureux, c'est celui qui fait le bonheur d'un plus grand nombre d'autres. Et là, on va plutôt vers la mission, justement, que je vais essayer de vous faire comprendre aujourd'hui. C'est celle-là. L'homme qui est heureux, c'est celui qui fait le bonheur d'un plus grand nombre d'autres. Est-ce que finalement notre bonheur n'est pas plutôt dans ce que l'on donne à l'autre, qui le fait rire, qui le fait sourire, qui le bénit? Et regardez Mère Teresa, la suivante. Qu'est-ce qu'on va voir avec Mère Teresa? Voilà. Ne laissez personne venir à vous et repartir sans être plus heureux. C'est génial, celle-là, non? Ne laissez personne, c'est-à-dire qu'une personne qui vient à vous, qui vient chez vous, qui vient prendre du temps avec vous, vous devez essayer de vous dire, elle va être plus heureuse en partant, ou moins malheureuse, ou moins... C'est pas faux, ça, hein? Mère Teresa est une fervente croyante. Hein? Et donc, le précédent, c'est ces deux-là que je retiens, qui vont aussi nourrir ce moment ensemble. Alors, qu'est-ce que c'est le bonheur? Qu'est-ce qui vous rend heureux? Vous avez tous un ballon, vous allez tous se gonfler, hein? Vous allez tous gonfler ce ballon, vous allez le fermer avec un nœud, vous avez tous un ballon, oui?
Il y en a là-bas.
Ballon, hop, vous allez tous un ballon et vous allez écrire. Il y a quelqu'un qui a des.
Moi j'en ai. On a quelqu'un qui peut
parler. Un autre, pardon.
Qu'est-ce qu'il faut écrire?
Quelqu'un d'autre, un ballon? Fermé. Alors, vous pouvez écrire sur ce ballon, okay. Vous pouvez écrire, écoutez-moi bien, il y a deux consignes, okay. Vous ne devez pas écrire toute une tartine, hein, toute une thèse de doctorat là-dessus, d'accord, on n'a pas le temps, Non, ce que vous devez écrire dessus, c'est un mot ou deux maximum qui vous fait, qui vous rend heureux. Mais ça ne peut pas être Jésus. Vous ne pouvez pas écrire Jésus. Hein, les chrétiens, vous. Hein, fastoche. Fastoche. Vous en écrivez. Je dis une deuxième fois. Donc vous pouvez écrire un mot, oui, ou deux. Ça peut être deux situations, mais on va dire au moins un ou deux mots qui sont en rapport avec ce qui vous fait le bonheur, ce qui vous donne le bonheur. Ça, ça me donne le bonheur.
Par exemple,
le sourire. Oui. Le rire de mon fils. Quand je le vois, béat comme ça, je fous. Ouais. Le rire de mon fils. Ou un baiser, le baiser de ma femme. Etc. D'accord, vous écrivez chacun un mot. Vous savez tous, est-ce qu'il y en a qui vont... Si tu peux écrire avec ça. Comment ça marche avec ça? Vous avez chacun un but, non? Oui, tu sais écrire avec. Est-ce que tout le monde a un bic? Non, vous n'avez pas de bic là?
Si,
c'est fait. T'as pu, non? On peut donner à Spiro, dès que vous avez fini? Oui. Qu'est-ce qui vous rend heureux? Qu'est-ce qui fait votre bonheur? Ça y est, tout le monde a écrit. Est-ce que tout le monde a écrit? Oui. Alors, on va commencer, on écoute bien chacun, on va commencer par la droite ici, votre droite, ma gauche, et chacun, vous allez dire ce qui vous rend heureux. Écoutez bien chacun, on écoute chacun, on écoute Nicolas pour commencer, puis son épouse, etc. etc. Et ah, attends, on va attendre. Merci. Tiens. Ça y est? Alors. Je commence par Nicolas et puis son épouse. Tu as déjà écrit? Non.
Non, j'ai rien écrit.
Ah, pardon. On va commencer par la droite. Donc, commençons par toi. Ok.
Alors, moi, j'ai écrit rendre heureux, servir les gens.
Servir les gens, rendre heureux. Merci.
L'amitié.
S'entraider, absolument. Bonheur. Merci, Sarah.
Le sourire des gens.
Merci, Sarah.
Être ensemble, partager,
merci. Spiro, qu'est-ce que tu as écrit?
Famille.
La famille, oui. Noé. Maman. Oh, oh maman. Oh, c'est beau ça. C'est pas ça que tu dis à JV. Et toi, Vite.
Tes bons amis et les gaufres.
Les amis et les gaufres. Quand on est en Belgique, Martine. Bon. L'amitié aussi, Trésor.
Pas écrit.
Sourire, Sarah on l'a déjà dit. Oui, hein. Et vous deux derrière, oui.
PlayStation
4. Les petits, tu veux dire les tout petits enfants?
Ah.
Et toi?
Moi j'ai vu fraternité et église
action. Une église en action, la fraternité, et toi?
Qu'est-ce que tu as écrit?
Oui.
J'ai mis aimer, voir les personnes heureuses.
Aimer, voir les personnes heureuses, oui.
Et toi, c'est quoi? Il n'avait pas fini. Moi, j'ai mis aider, l'amour, les câlins et mon boulot.
Donc, deux mots.
Ah ben voilà.
Comme toujours. Comme toujours. Voilà. Aimer, câlin, boulot.
Mais elle va tellement vite que c'est...
Aimer, câlin, boulot, oui.
Aimer, partage.
Aimer...
Et Noé.
Et partage et Noé. Est-ce que vous avez entendu ce que Yannick a dit?
Mais non, parce qu'on n'en parle pas assez fort. Hein.
La reconnaissance.
La reconnaissance.
Oui. Hein, la reconnaissance de ce que les gens nous font, nous donnent.
Les grimaces de Yann et de Loïs.
Les grimaces de Yann et de Loïs, très bien. Ça, c'est ton bonheur.
Ah, bah, hein. Le calme, sinon le calme.
Le calme. Oui.
Le bonheur de mes proches et de mon entourage.
Voilà, le bonheur de mes proches, hein, c'est ça, voilà. Et
Le rire, l'amitié, la famille.
Rire, amitié, famille, donc c'est un petit peu... Ok, alors, vous allez tous venir vers moi, comme ça, oui. Imaginez.
Non.
Merci.
Valérie, écoute
ses oreilles.
Attention.
Valérie.
Tu vas
T'as ton fils de moi.
Avez-vous vu ce que j'ai fait?
Il y en a, il leur reste un bonheur. Tout bonheur.
Alors,
détruit mon bonheur.
Ouais, c'est ça, voilà.
Mais c'est rien, regardez, j'en viens de voir.
En fait, mine de rien, imaginons que tout ça vous soit retiré, tout, famille, amis, pour rire, etc. Tout, chaque personne ici qui a exprimé son bonheur, ça représente un peu le bonheur de chacun, les relations, les amitiés, les rires, etc., etc. Eh bien, c'est ça que Jésus-Christ a vécu. Il a été rejeté, il a été torturé, il a été séparé des siens, il a été dans un total abandon. On rigolait plus quand on l'a vu à la croix. On lui a tout retiré. Et vous savez, dans sa vie, juste avant de passer à la croix, vous savez de quoi il a parlé le plus ? De quoi a-t-il parlé le plus avant d'aller à la croix ? Il a parlé de la joie. Il dit, j'ai une joie que personne ne peut connaître s'il ne me croit. J'ai une joie qui va au-delà de cet événement que je vais faire. Je vais souffrir l'horreur la plus difficile sur cette terre, oui, l'injustice totale. Un être innocent qui avait tout fait bien, oui, on lui a tout retiré. Oui, et lui a dit, moi je vois beaucoup plus loin. Il a montré qu'il avait une autre perspective de ce temps. Il dit, il y a un temps dans lequel on est qui est un temps fini. Hein? Je vais mourir, tu vas mourir, papa va mourir, maman va mourir, c'est con, c'est nul, c'est horrible. Oui? Ma femme va mourir, peut-être avant moi, peut-être moi, mon fils, enfin, tout peut m'être retiré, la guerre peut arriver, tout. Oui? Et lui, il dit, sur quoi est-ce que tu as basé ta vie? Sur quoi est-ce que tu as basé ta vie? Alors écoutez bien la définition qui est donnée par Google sur le Wikipédia. La définition du bonheur. Il faut que je la retrouve. Je retrouve la définition du bonheur. Hein ? Il faut que je la retrouve, Seigneur, montre-moi. Ah voilà. Donc, le bonheur, nous dit Wikipédia, c'est un état durable de plénitude et de satisfaction qui est agréable, un état agréable, équilibré de l'esprit et du corps, où la souffrance, le stress, l'inquiétude et le trouble sont absents. C'est pas fou ça? Donc, c'est un état durable de satisfaction, équilibré de l'esprit et du corps, où souffrance, stress, malheur n'existent plus, sont absents. Donc ça, c'est cette définition-là. De tous les thèmes que nous avons abordés, ensemble depuis qu'on est ensemble avec les Romains. On a fait la résurrection, la vérité, la vie. Celui d'aujourd'hui, je pense, est peut-être celui qui est le plus abstrait, celui qui est le plus immatérialiste, le bonheur. Le bonheur est difficile à définir. Il est insaisissable, indescriptible, difficile à décrire. Comme je l'avais dit tout à l'heure, c'est comme un poisson. Alors, j'ai un pote. Après, on va parler de ce qui tue le bonheur. Et j'ai un pote qui... hier soir, alors que j'étais en train d'essayer d'accoucher encore de certaines idées pour aujourd'hui, j'ai eu 1h15 de conversation téléphonique avec un ami que j'ai plus depuis quelques années. Et cet ami m'a dit ceci. Il est pianiste, hein, de métier. Et il m'a dit, c'est fou, je ne suis jamais satisfait. Je peux être à 1h de mon concert, je veux tout abandonner, je ne veux pas, parce que ce n'est pas ça que je veux. Et puis je joue et je fais toucher un petit peu le ciel à certaines personnes qui viennent me féliciter, je suis très heureux, satisfait, et le lendemain, ça recommence. Je suis attaqué de toutes parts, je n'arrive pas à toucher cette perfection. Hein, c'est ce qu'on a vécu, c'est que beaucoup d'artistes vivent, c'est que beaucoup de gens qui essayent d'exceller dans leur art se rendent compte. Et lui, il me dit, j'avais justement, tu sais, Eugène, mon professeur, qui a fait des concerts, qui a fait tout, lui, il a joué avec des Martha Argerich que tu connais, il a réussi sa carrière. Et il se retrouve petit professeur dans une académie à Forêt. Il a touché les zéniths pourtant. Et il est toujours défait. Il a 40 ans. Oui. Et eux, ils connaissent ma vie. Et il y a eu tout d'un coup une attaque énorme sur sa vie. C'est qu'il a perdu les deux reins en une fois. Les deux reins. Donc il était prêt de mourir. Et à ce moment-là, Patrick, mon pote, il me dit, écoute, voilà, Eugène va partir. Et moi, je dis, non. Je me suis mis à genoux et j'ai commencé à prier pour Patrick, pour Eugène. Et j'ai prié pendant 6 mois, mais je ne me souvenais plus de cette prière. Et j'ai prié, j'ai dit, non, Seigneur, cet homme n'a pas 50 ans, c'est un génie, je ne le vois pas partir. Et puis, c'est un antichrétien. Il n'aime pas les chrétiens. Il ne les supporte pas, les chrétiens, en plus. Ouais, Dieu, et toujours moquerie. Et cet homme-là va être en dialyse. On va lui greffer un nouveau rein, mais tout ça, je ne le sais pas à l'époque. On va lui greffer un rein. Il va revivre comme maintenant. Il a 52 ans, il est plein poumon, et il est en super forme. Et Dieu a répondu à ma prière, à cette prière. Pour quelle raison je vous partage ça? Parce que pour moi, le bonheur, c'était hier soir, quand j'ai appris que cet être-là, qui était un pote aussi, était guéri. Mon bonheur, c'est aussi le bonheur d'un autre. Hein, comme vous l'avez écrit, le fait que Eugène allait bien, ça faisait partie de mon bonheur. De voir qu'on peut donner, on a cette puissance de la prière, vous voyez, qui nous donne d'intercéder pour les autres. Alors, dites-moi un petit peu, vous avez décrit le bonheur, qu'est-ce qui pollue votre vie? Qu'est-ce qui, pour vous, enterrit, dommage, pourrit la vie? Dites-moi les pourrisseurs de votre vie. Qu'est-ce qui vous pourrit la vie? Qu'est-ce qui... ça peut être trop d'écran, ça peut être trop l'Internet, ça peut être... Dites, si vous n'avez pas envie de confesser, on n'est pas là pour ça. Mais Les conflits, quoi d'autre? Pardon?
Nos propres pensées.
L'orgueil.
Les soucis
dans notre vie, oui, qui nous pourrissent la vie, quoi d'autre?
Maman.
Ça, c'est de l'honnêteté, hein? L'authenticité. Quoi d'autre?
La violence.
Oui? Yann, tu brûles?
Non.
Quoi d'autre? Manque de reconnaissance. Ça nous pourrit la vie, puisqu'on ne reconnaît pas tout ce qui nous est donné. Oui? Et tout ce qu'on reçoit comme idée, oui, on dit, c'est moi qui l'ai inventé. D'accord? Merci beaucoup.
Isolement.
Manque de respect. Hein? On a dit l'amertume, l'injustice, les frustrations, les attentes déçues des gens. Hein? On a tellement mis nos espoirs dans certaines choses, dans nos enfants. Oh, moi je pensais que j'allais devenir musicien professionnel, ou je ne sais pas, moi pasteur, comme si c'était la réussite d'être pasteur. Hein? Et puis, relations brisées, tout ça nous pourrit la vie, quoi. Hein? Les imprévus, une personne de 6 ans qui meurt. Ah non, quand on a 80, c'est normal qu'on meure, mais à 6 ans, non. Oui, tout ça, ce sont des malheurs, la maladie, et... J'arrive vers la fin. Alors, le bonheur, on l'a défini par ce que c'était, par ce que ce n'était pas. Je reviens à notre certain Fortin, là, le psychologue, là, d'accord? Et après, nous aurons un petit moment que ma femme va animer. C'est un moment détente. On n'est plus dans un moment d'écoute comme ça, où on regarde sa montre, c'est quand c'est fini. Mais c'est plutôt un moment où elle va vous inviter à réfléchir, à un petit moment de réflexion sur où vous en êtes aujourd'hui dans votre vie. Oui. Merci à mon épouse qui a préparé ça d'ailleurs. Est-ce que c'est concret? Est-ce que c'est abstrait? Est-ce que c'est le fait que je suis apte à être plus bonheur ou heureux que certaines personnes parce que je fais des choix, parce que moi j'ai tout compris, parce que moi j'ai la bonne attitude, je suis un optimiste de nature. Il y a aussi ce que Fortin va dire, écoutez bien, il dit « Beaucoup de penseurs vont critiquer la société contemporaine davantage qui est axée sur la consommation, sur la notion de l'avoir plutôt que celle de l'être, et sur l'obligation de performance, comme si le mieux ne pouvait s'obtenir que par le plus. » Je redis, avec mes mots, donc, le fait de consommer, le fait d'être dans l'avoir, c'est ça qui nous rend heureux. Et la société ne nous vend-elle pas des produits qui nous dit « Voilà, si tu veux manger un yogourt, il y a une belle femme qui apparaît. Hein » Et on se dit, tiens, c'est quoi le lien entre la bonne femme et le yaourt? Et on se dit, c'est ce yaourt qu'il faut à Danone. Et puis Danone va se reprendre une belle claque après. Hein, il y a plein de produits qui ne sont pas bons, etc., etc. La consommation du vêtement, la consommation de la technologie. Hein, le GSM que vous avez, l'iPod 3, l'iPhone 3, c'est fini, quoi. Ça ne vaut plus rien. Hein. À l'époque, ça vous plaisait il y a un an, oui, mais c'est fini. Hein. Il faut acheter celui-là à 800 euros, c'est beaucoup mieux, d'accord. C'est ça le bonheur, plutôt que l'être. Et le chrétien, je vais le résumer comme ça. Pour moi, le chrétien, chez les romains en tout cas, il a compris, c'est mon fils, ça. Le chrétien, il a compris quelque chose, c'est qu'il a faim, comme lui d'ailleurs, c'est qu'il a faim de justice, il a faim d'un quotidien du bonheur. Il est dans un désir du présent parce qu'il voit un futur, comme Jésus-Christ voyait la résurrection. Il voit des choses à venir, mais le chrétien, c'est que il reçoit, il prend conscience de tout ce qu'il reçoit, mais il comprend que rien, comme vos ballons pétés, que rien des circonstances, de tout ce qu'il a, ne se fonde que parce que Dieu le lui donne. Ça veut dire que toutes ces choses sont bonnes. Et c'est ça que Jésus-Christ va venir dans Matthieu 19, 11, c'est 11, 19, tu peux le mettre. Regardez bien, Matthieu 11, 19, c'est Jésus-Christ. Ça, c'est le dernier verset avec lequel je vous laisse. Enfin, il y a encore deux avec Ephésiens, Colossiens. Mais c'est fini après ça, c'est juste celui-ci. Regardez bien ce qu'il dit. Jésus-Christ était ceci, le Fils de l'homme, Jésus-Christ est venu, il mangeait, il buvait. Et ils vont lui dire, c'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains, un gars de mauvaise vie, mais sa sagesse a été justifiée par ses œuvres. C'est que Jésus-Christ nous fait comprendre qu'il peut aller faire bonne chère, dans une limite de sagesse, c'est qu'il peut être avec chaque personne, dans chaque événement, dans chaque destruction, dans chaque tribulation, dans chaque injustice, il va et lui-même reste dans une certaine sagesse, dans une certaine limite des choses à ne pas faire, etc. Un verre de vin, c'est bien. 10, c'est trop. Une femme, c'est bien. Je me suis marié avec une, j'en ai pas 10, je ne suis pas polygame, etc. etc. Oui. Il voit que toutes ces choses que vous avez écrites, elles sont ancrées en lui. C'est lui le donateur. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et le plus grand bonheur, nous dit la Bible, c'est celui de pouvoir plutôt donner que de recevoir. Et vous savez pourquoi c'est plus de bonheur de donner que de recevoir? Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Vous savez pourquoi? Parce que si tu peux donner, c'est que tu as déjà reçu. Tu es deux fois béni. Tu ne peux donner que ce que tu as reçu. Si tu peux donner à un pauvre, c'est que tu as été béni, c'est que tu as une intelligence peut-être qui te permet de faire ce travail. Tu n'es pas au chômage, tu peux remplir peut-être l'estomac d'un autre. C'est ce qu'on fait avec Congo. Hein? C'est ces jeunes qui sont assoiffés, comme Mathilde. Et Noé et Ruth, c'est des jeunes qui ont envie de s'épanouir, de découvrir. Et tout ce que ces jeunes viennent recevoir, c'est des directives, on va dire, pour mieux comprendre ce que Jésus-Christ est venu faire sur la terre. Et le dernier verset, c'est Philippiens qui nous dit ceci. En lui qui, dès l'origine, était de condition divine, ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même et il a pris la condition du serviteur. Il se rendit semblable aux hommes en tout point et tout en lui montrant qu'il était bien un homme. Il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort. Oui, la mort, c'est la croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Vous voyez, il a été pleinement Dieu, oui, afin de pleinement nous remplir. Et son œuvre, pendant qu'il nous remplit, c'est qu'il nous vide de ce qui nous fait mal. Ça, c'est aussi géant. Passer du temps avec Dieu, c'est de nous vider de ce qui nous fait mal. C'est de d'œuvrer contre ce qui nous pollue la vie, pour nous remplir de lui, de plus de paix, de justice et d'amour pour l'autre. C'est pas beau, ça? Alors, si après ça, vous avez envie de découvrir toute son œuvre, ce bonheur qui est là, et qui, lui, ne dépend ni des circonstances, oui, et est éternel, parce qu'après, il dit: moi, je suis la vie. Je vous donne la vie, même quand vous serez mort. Même la mort n'est plus une fin. Waouh! Quel bonheur, quoi. Et c'est de ça que chaque chrétien, j'espère, ici, vit. Hein, ça? C'est qu'on sait qu'on va mourir. Hein. J'espère que tu mourras après moi. Après moi, oui, oui. Parce que j'ai pas envie de te voir partir. D'ailleurs, aucun. Hein. On aime trop la vie et en même temps, toute cette vie en Jésus-Christ. Merci.